Bien, alors aujourd'hui, c'est le premier d'une série de deux cours qu'on va faire sur le mystère. La farce viendra plus tard. Comme je n'ai pas calibré de façon très précise, je sais que le mystère va déborder ce cours-là, mais peut-être que dans le prochain cours, on commencera à embrayer un petit peu sur la farce. Alors, la première chose que je voulais signaler, c'était peut-être la question du mystère, de son sens, qui devient toujours un petit peu compliqué, parce que mystère, on a envie de rapprocher ça du latin divinum mysterium, c'est-à-dire le mystère, la chose impossible à prouver, pleine de profondeur, de sens métaphysique, etc. Et il est évident que le mystère religieux étant souvent une activité renvoyant à l'incarnation, au salut, la rédemption et des choses comme ça, on se dit ce sont les mystères de la foi qui sont représentés. Faut voir que cette graphie avec un Y n'est pas la graphie habituelle du Moyen-Âge. Moyen-Âge, 16e siècle, le Y, on le met en général à la fin des mots pour faire joli. C'est plutôt un MI, mystère, qui est utilisé. Et à ce moment-là, on voit bien qu'on est dans la famille de ministerium. Le ministerium, c'est le service. C'est le petit service, le petit travail, ce qui fait que, par exemple, un ministre du culte, c'est quelqu'un qui est, par définition, un serviteur de Dieu. Vous pourrez distinguer, autre temps, autre mœurs, la puissance qu'avait quelqu'un de rang magistral, qui détenait un magistère, infiniment supérieur, magis en latin, que le ministre qui était justement au service de... Les temps ont changé, maintenant les maîtres sont au service des ministres, mais c'est une autre histoire. Alors, on va s'arrêter pudiquement, tendrement, sur cette figure-là qui est tout à fait étonnante, la figure de Saint-Genis, par lequel tout commence, ou du moins tout commence, dans ce qu'on pourrait appeler une tradition médiévale. Saint-Genis, c'est un saint un petit peu apocryphe, faut être honnête, de 3-4e siècle environ, qui, au moment des persécutions chrétiennes, fait un certain nombre de spectacles divertissants auprès de l'empereur, dont un où il joue un chrétien. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Saint-Genis, jouant le rôle d'un chrétien sur scène, se convertit effectivement, devient absolument chrétien et sera chrétien jusqu'au martyr. Cette figure de Saint-Genis qui superpose complètement le travail de l'acteur et l'aventure personnelle, l'aventure individuelle, d'abord c'est une belle histoire, ensuite c'est quelque chose qu'on reverra comme allégorie du théâtre à diverses reprises. Vous avez un mystère de Saint-Genis tout à fait passionnant de la première moitié du 15e siècle environ. Vous aurez un Saint-Genis de Rotrou, qui est une grande pièce baroque tout à fait passionnante, aussi passionnante à lire que l'illusion comique de Corneille. Ça fait partie des grandes œuvres baroques. Et puis vous avez même, à partir de Jean Genet, un Saint Genet, poète et martyr de Sartre, qui reprend toujours la même mythologie. Mais quand la confrérie des ménétriers, ménestérialis, c'est-à-dire de ceux qui font des mystères, qui sont au service de... Quand la confrérie des ménétriers fonde un hospice dédié à Saint-Julien dans le quartier du Marais, il est évident qu'immédiatement, après avoir mis la statue de Saint-Julien et la statue de la Vierge, sur le portail, ils mettent une statue de Saint-Genis. Alors, l'intérêt d'une statue de Saint-Genis, c'est qu'on nous le présente ici comme musicien, mais toute la tradition nous dit que c'est également un acteur. Donc, gardez en tête que, pour commencer, les acteurs et les musiciens, les gens de spectacle sont d'une même nature et que je continue à enfoncer mon clou quand je vous parle de la naissance du théâtre médiéval, je vous parle aussi de la naissance de l'opéra médiéval. Alors, après avoir mis cette première icône, on va en mettre une seconde qui me paraît essentielle. C'est cette figure bien connue des heures d'Étienne Chevalet au musée Condé de Chantilly. Alors, c'est une enluminure que vous avez vue à diverses reprises qui a un défaut, c'est qu'elle est toute petite. Elle doit faire à peu près 8 cm sur 8 cm, et même si elle est d'une précision extraordinaire, elle est toujours très difficile à photographier et à reproduire. Je n'ai jamais encore réussi à en avoir une reproduction satisfaisante. Sachant que même si on va au musée Condé pour prendre une photo, on n'a pas droit au flash, c'est dans une salle obscure, on ne peut pas mettre un trépied, donc on bouge, on a des reflets sur la vitre, enfin c'est toujours un cauchemar. Mais voici comment elle se présente, cette enluminure, et elle nous représente le martyr de Sainte-Apolline. Sainte-Apolline, patronne des dentistes. Pour la raison que vous voyez affichée sur cette image, à savoir que parmi les friandises de son supplice, on lui arrache les dents avec de gigantesques tenailles. Bon. Sainte Apolline, dont on voit le martyr, ou plus exactement, dont on voit la représentation du martyr. Et c'est là que les choses deviennent assez intéressantes et renvoient à ce que je vous avais dit déjà il y a quelques semaines autour des possibles représentationnels. Quand on représente le martyr de quelqu'un, une scène religieuse, est-ce qu'on représente une scène canonique telle qu'elle est, ou est-ce qu'on représente sa représentation? Ici, il semble que représenter, je dirais, enluminer une représentation du martyr de Sainte-Apolline vaut à enluminer le martyr de Sainte-Apolline. Mais pour nous, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va nous permettre de voir ce qu'il y a derrière et autour. Alors, l'image est toujours un petit peu compliquée. Mais ce qu'elle nous apprend déjà, c'est que vous avez une sorte de plateau avec toute une série de bourreaux dont vous remarquez les tenues pimpantes d'un orange presque flashy, et sur la droite, une personne genre maître d'orchestre avec un bâton dont on ne sait pas ici s'il est l'ordonnateur des supplices ou s'il est, et on sait que ça existait d'après les pièces d'archives, le maître du jeu. Alors essayez de vous imaginer sur un plateau théâtral avec quelqu'un qui, de sa baquette, va donner le démarrage de tel ou tel acteur, va jouer les chefs d'orchestre, mais les chefs d'orchestre d'une représentation théâtrale. Et à ce moment-là, vous voyez l'importance du personnage qui, muni de son rôlet, de son livre, va pouvoir donc diriger toute la représentation. Une autre représentation, illustration, pardon, de cette enluminure a été gravée dans The Medieval Stage de Chambers, qui est intéressant parce qu'en noir et blanc, on voit un certain nombre de détails. Et les détails qu'on a dans l'enluminure du bas sont parfois plus visibles dans la gravure du haut. Ainsi, vous pourrez remarquer que l'espèce de flou un peu compact en couleur que vous avez peut se subdiviser en une série d'estrades, très visible, on en voit là, donc régulièrement, avec au centre un trône vide, et même une sorte de poteau sur lequel s'est juché un spectateur qui va durer là, rester accroché le temps du mystère. Il faut avoir une certaine persévérance pour tenir là pendant 2-3 heures accroché à son mât. Mais c'est quand même assez intéressant. Chose qui me paraît intéressante, c'est que vous avez indiscutablement un certain nombre de personnages qui sont des spectateurs. Ces dames munies de hennins extrêmement hauts qui leur font des petites ailes sur les têtes sont indiscutablement des spectatrices. Pardon, c'est pas ça que je voulais vous montrer, je reviens en arrière. Vous voyez de la même façon à droite un certain nombre de personnages. Par contre, si on regarde à gauche, on a des gens qui jouent de la trompette, on a des anges, on a ainsi donc des figures qui sont à la fois d'acteurs et de spectateurs qui sont mêlés. Au point que le trône qui est au centre, on ne sait pas encore si c'est l'endroit où se trouverait le notable, le prince de la région, le grand seigneur, etc., ou si c'est le roi qui a ordonné le supplice. Dans la mesure où on a sur scène, et vous le voyez, attendez, je l'ai peut-être en dessous, vous avez ici un personnage avec son sceptre et sa couronne qui est en train d'indiquer qu'il faut arracher les dents de Sainte-Apolline, on s'aperçoit que ce trône est très probablement un décor du spectacle et non pas le trône où doit se retrouver un grand seigneur. En dessous, et on le voit bien ici, en dessous de ces estrades, de ces établis, vous avez la foule des gens qui sont debout et qui assistent au spectacle. Alors, ça vous donne un dispositif scénique un petit peu complexe, dans la mesure où vous avez une estrade surélevée, ce qui permet aux gens au ras du sol de voir le spectacle, et vous avez au-dessus de ces gens au ras du sol une série de balcons, d'échafaudages qui permettent à une série de notables de voir mieux en ayant une vue plongeante. En fin de compte, si vous regardez, on est à peu près dans la situation d'un théâtre à l'italienne moderne, où les gens de l'orchestre sont en général un peu en dessous de la scène, qui est surélevée, et vous avez ensuite les balcons, les galeries, les loges, qui sont un petit peu surélevées. Chose qui me paraît importante, c'est de souligner la part de la musique que vous avez avec nos anges d'une part, et surtout avec nos personnages à trompette. Et puis, des personnages qui sont tout à fait saugrenus, parce qu'au moment même où on est en train d'arracher les dents à Pauline, c'est horrible, elle souffre, elle a mal, nous sommes pleins de compassion, elle souffre horriblement pour l'amour du Seigneur, vous avez juste à gauche un personnage qui monte ses fesses. Et ça va être aussi un des intérêts ou un des problèmes du mystère. Alors même que l'on fait dans le sublime et le pathétique, on aura toujours des éléments de dérision, des éléments qui vont cristalliser, je dirais, l'espèce de fou rire compulsif qu'on peut avoir, et qui vont permettre ensuite, ce rire ayant eu lieu, de se concentrer davantage sur la méditation et l'oraison qu'induit la chose. Derrière notre chef d'orchestre, notre maître des jeux, j'attire votre attention sur cette grande gueule ouverte. Cette grande gueule ouverte, c'est traditionnellement la gueule de l'enfer. L'enfer est une espèce de monstre qui va se caractériser par une grande gueule ouverte, des flammes qui en sortent et effectivement les damnés qui viennent ensuite. Ici, vous voyez qu'on a un décor qui nous fait tout à fait une tête d'animal, très 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 réussie, et vous avez en dessous un certain nombre de diables tout à fait représentatifs. Alors, je ne sais pas si je les ai mis en gros. Oui, c'est assez intéressant. Regardez que nos diables, vous en avez certains, je pense à celui-là qui est assez attendrissant. Si vous regardez, il a une tête de nounours. C'est-à-dire, il a un masque. Mais il a un masque qui, indiscutablement, va l'empêcher de parler de façon audible et va l'obliger à sortir une série de grognements. Mais après tout, quand on est un diable figurant, il suffit d'être laid, d'avoir une massue, de grimacer et de pousser quelques grognements pour faire un diable tout à fait convaincant. Ici, vous avez en revanche un chef des diables qui va se retrouver avec un visage beaucoup plus humain, si vous regardez, même s'il a des petites cornes. En revanche, pardon, excusez-moi... je le retrouve. En revanche, vous pouvez remarquer qu'on lui a fait des mains tout à fait inhumaines. Ces espèces de gants à trois doigts qui me rappellent, je ne sais pas pourquoi, un passage du Père Noël est une ordure. Ces espèces de gants à trois doigts connotent l'animalité, surtout quand ils sont recouverts de griffes, etc. On a donc un personnage négatif. Ajoutez à cela, au-dessus de la gueule de l'enfer, deux personnages qui sont un homme et une femme, tout à fait intéressants, qui sont le roi et la reine des diables. Qu'est-ce qui va les caractériser? Et c'est là qu'on a fait des progrès par rapport au diable du XIIIe qu'on avait vu la dernière fois. C'est que là, il n'est plus question de leur faire un petit pagne. Ils ont un costume complet. Et on va démultiplier chez les uns et les autres ce qui va souligner la dimension horrible. Donc, à la place du ventre et des parties génitales, on va faire une gueule dévorante. Et je veux dire, ce que vous avez chez les psychanalystes, le fantasme du vagin denté et des choses comme ça qui remontent à la nuit des temps et au fin fond de l'inconscient, vous en voyez une manifestation ici. Le diable, il est dévorateur par sa gueule, il est dévorateur par sa sexualité. Et si vous regardez celui-là, il est même dévorateur par ses seins. Bon. On voit une sorte de bouche monstrueuse, et vous avez la diablesse sur sa gauche, qui se retrouve avec une série de seins, et l'on a au moins trois paires. Quel intérêt en fait? Jamais dans l'Ancien Testament, on ne nous représente les diables comme des êtres mamelus. Par contre, ce qu'on appelle le diable dans le Moyen-Âge, c'est, pour faire simple, tout ce qui n'est pas chrétien, tout ce qui est contre la tradition chrétienne au sens strict. À ce titre-là, tout ce qui est tradition mythologique gréco-latine devient d'office une figure diabolique. Et à ce moment-là, si vous avez une figure de l'Artémis d'Éphèse comme Magna Mater, celle-là, elle est bien connue, cette représentation, je pense que vous l'avez déjà vue, avec une profusion de seins comme mère nourricière, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez intéressant et que nos diables, munis d'une d'un nombre de poitrines surdéterminées, nos diables sont en fin de compte dans la continuité totale de cette Diane d'Éphèse. Petite parenthèse, c'est au Concile d'Éphèse, dans les années 400 et quelques, que l'on proclame que Marie est Théotokos, Marie, mère de Dieu. Ce qui revient à faire d'une femme, complètement femme, une figure qui est présente dorénavant dans le panthéon chrétien, et qui est, si vous voulez, l'écho, d'une certaine façon, de cette Artémis d'Éphèse. Au passage, pour que Marie soit nommée Théotokos par le concile des évêques et des cardinaux, il y a des manifestations dans la rue. On n'imagine pas aujourd'hui des manifestations pour un concile théologique. Là, c'est essentiel. Ça veut dire à quel point l'idée de Marie comme déesse-mère, à un titre ou à un autre, est quelque chose qui s'ancre dans l'histoire, bon, avec d'autres conjugaisons et d'autres finalités. Alors là, j'avais fait un certain nombre des miniatures de Fouquet pour montrer comment on représente les diables. Donc, vous voyez, on démultiplie les dents, les griffes, on essaye de trouver des pagnes tout à fait intéressants. Là, vous avez Saint-Michel qui combat le dragon, avec de très beaux diables en dessous. Mais ça m'amène à poser la question que vous allez retrouver dans un certain nombre de traités sur le théâtre médiéval, avec deux hypothèses radicalement différentes. La première, celle que j'avais quand j'étais petit, c'est que la scène médiévale, on reviendra sur ce mot-là après, la scène médiévale, c'est quelque chose d'extrêmement long, sur lequel se retrouvent des mentions, des établis, côte-côte, qui vont à chaque fois délimiter un lieu théâtral. Et à cette hypothèse-là, qui est controuvé par un certain nombre d'éléments, Reflo, dans les années 70, a opposé l'idée d'un théâtre en rond, celui que vous aviez justement dans l'enluminure du martyr de Saint-Apolline, avec un plateau vide au centre, sur lequel se passe toute une série de choses, et quelques bribes de décor tout autour, puisque vous aviez Dieu d'un côté, les diables de l'autre, et le trône du roi. Je pense que l'idée que développe Reflo, comme quoi le théâtre doit être absolument en rond, qu'il faut absolument une aire de jeu centrale, pose des problèmes, ne serait-ce que parce qu'on a un certain nombre d'indications de décor. Et ce qu'on sait du théâtre en rond, du théâtre élisabétain par exemple, c'est qu'il ne peut fonctionner qu'avec un minimum de décor. Si vous commencez à mettre sur un théâtre en rond une forêt, un château, etc., vous pouvez être sûr que ça va boucher la vue et qu'il y aura 60% du public qui ne pourra rien voir. Donc, au maximum, les éléments de décor dans le théâtre shakespearien, ce seront des éléments au sol, ce seront quelques chaises, quelques bancs, rien de plus. On peut arriver à faire une taverne avec un banc et une chaise, éventuellement avec un mât et une enseigne, mais on ne va pas pouvoir construire des murs et en faire un local vraiment précis. Donc, si vous voulez, l'idée qu'on a, c'est peut-être qu'il faut repenser un petit peu la façon dont Fouquet présentait l'espace. Et ça, c'est une idée que je dois à Yael Kopman, ce qui est vraiment intéressante, c'est le fait que Fouquet, pour arriver à tout mettre dans son enluminure, et là, je vais vous en donner un certain nombre d'exemples, travaille comme s'il avait un objectif fisheye. Vous savez, ces objectifs de très grand angle qui permettent de prendre 180, voire 190 degrés autour de vous. On déforme la perspective, on remet dans une image en face de soi ce qui, en fin de compte, dépasse largement l'orbe de notre regard. Ici, vous avez l'épisode de la Dormition de la Vierge, toujours de Jean Fouquet, avec au sol, je dirais, la Vierge qui dort ou qui meurt, les apôtres autour d'elle, mais la Vierge qui se hisse, qui est hissée au ciel, et toute la communauté des saints et des anges qui l'accueillent, l'étage au-dessus. Vous voyez que ce qui est à plat essaye, en fin de compte, de rendre compte d'une dimension de volume assez complète. De la même façon, ici, le fameux épisode de Saint-Martin. Vous savez, Saint-Martin qui coupe son manteau pour le donner à un pauvre, il est mis en perspective de façon tout à fait saugrenue, si vous y pensez, à une sorte d'angle d'un pont, j'ai jamais vu de pont en angle, angle d'un pont qui est en plus marqué par le pavage, dont vous voyez qu'il fonctionne vraiment en continuité. Tout ça pour arriver à donner une vision perspective, tout se passe comme si, pour arriver à tout montrer, on avait plier l'espace, resserrer l'espace central en faisant un paysage, de façon à mettre, je dirais, dans un angle de 120 degrés ici, pardon, ce qui devrait être à 190 degrés ailleurs. Donc, la conclusion de l'histoire, c'est que Le théâtre en rond, oui, ça peut, dans certaines mesures, on reviendra, mais ça n'est pas systématique et il ne faut pas tirer de la gravure de Jean Fouquet plus que ce qu'elle ne dit. Ce que nous dit Fouquet, c'est qu'on a un plateau théâtral et qu'on a une série d'éléments de décor qui sont mis autour. Bon, là, vous avez le couronnement de la Vierge qui est tout à fait évident aussi, avec une construction très, très fisheye, justement. Et on a d'autres manuscrits qui nous présentent ça. Et quand vous voyez ce type de décor, vous êtes d'accord, on ne peut pas mettre ça au centre avec le public autour, parce que les trois quarts du temps, en vrai, on ne verrait rien. Alors, on a un théâtre, je veux dire, en long, indiscutablement, théâtre en long dont il faut un petit peu nuancer aussi les perspectives. Personne ne nous a dit qu'il était totalement rectiligne. La grande question est de savoir où est-ce qu'on représente notre mystère. Notre mystère, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est un mystère urbain. C'est fait par décision d'un conseil communal sur la place de la ville, la plus grande place de la ville. On sait que à Châteaudun, en 1514, ça a été représenté sur le chevet de l'église, sur la façade de l'église, pardon, où on sait qu'il y avait une place suffisante, il y avait 30-40 mètres de long, ça permettait de le faire. Il y a d'autres endroits où ça ne le permet pas. Donc je pense que, de façon tout à fait pragmatique, on essayait de déterminer un ruban de scène qui pouvait être rectiligne, qui pouvait être éventuellement courbé, qui pouvait même être à l'occasion scindé. Essayez d'imaginer une place de petite ville où, effectivement, vous pouvez vous adosser à la façade de quelques maisons pendant 15 ou 20 mètres, mais il y a une rue qui passe. Donc, on est obligé de faire une rupture et de continuer le décor un petit peu plus loin, en faisant attention à ce que les passages puissent être négociés à un moment ou à un autre. Donc, ici, vous avez un univers tout à fait traditionnel, c'est la représentation de la Passion de Valenciennes. Et cette Passion de Valenciennes, elle vous donne le décor typique où vous avez à gauche le paradis, qui est enfin à la droite des acteurs, et à droite l'enfer. Alors, quand on fait un décor de théâtre, on est amené donc à démultiplier l'espace et à organiser l'histoire de l'homme, l'histoire du sol, notre histoire, entre le paradis et l'enfer. Alors, le paradis, c'est tout un travail, parce que Dieu est au septième ciel, il est dans l'altitude, échafaudage de bois assez complexe, et ensuite, la gloire des anges et des saints tournoyant autour de lui induit un système de mécanismes. Quand Dieu est assis là, sur son trône, vous avez tout autour de lui les cieux, les astres et les anges qui tournent. Ça doit être assez spectaculaire. Mais en même temps, mécaniquement, c'est assez simple. Il suffit de mettre des roues concentriques, des décors qui vont tournoyer, un système de mécanique et de poulies, alimenté ou par un individu, ou éventuellement, si on a une roue à aube pas loin, ou même par un animal, on peut y arriver. Le tout, c'est que ça ne fasse pas trop de bruit. Le tout aussi, c'est qu'il y ait de la place en suffisance pour que Dieu ne se retrouve pas tout seul coincé sur son trône, mais qu'il puisse avoir autour de lui quelques personnages qui seront Jésus avant sa naissance, qui seront la Vierge à l'occasion, et qui seront surtout les anges messagers et les deux bras droits. Ouais, non, ça va pas. Les deux compagnes nécessaires de Dieu, justice et miséricorde. Je reviendrai sur justice et miséricorde tout à l'heure. Donc, en haut, travail d'échafaudage, déjà assez dispendieux, mais plus on va faire un ciel satisfaisant, plus on arrivera à faire un spectacle convaincant. Et puis, à droite, l'enfer. Alors ça, c'est trop cool. Le problème, c'est que ça coûte une fortune. Pourquoi ? Parce que dans l'enfer, il faut des effets spéciaux, il y a des flammes. Il y a des flammes, il y a des artifices, il y a des chaînes, il y a des grincements, il y a de la fumée. Donc, pour des raisons toutes simples, il faut quelque chose d'ignifugé. L'enfer coûte une somme conséquente dans le budget parce qu'il est toujours construit en briques. On ne peut pas commencer, dans un décor de bois et de carton et de papier, à faire des flammes dans tous les sens. Alors, là, il est bien subdivisé. Je sais pas, non, est-ce que j'ai une autre image de l'enfer ? Oui. Qui est absolument superbe, c'est que vous avez là les trois étapes intéressantes. La fameuse gorge d'enfer. Vous voyez, la bouche, elle est assez répugnante, elle est tout à fait convaincante, tout va bien. Vous avez ensuite, et c'est indiqué d'ailleurs sur l'enluminure, le limbe des pères. c'est-à-dire l'endroit où sont les justes, qui, après le péché originel et avant la rédemption, sont d'une certaine façon mis en réserve et qui vont être sauvés quand le Christ, une fois crucifié, va descendre aux enfers. Vous êtes toujours demandé ce qui est fait. Il est descendu aux enfers, le troisième jour il ressuscita. Quand il est descendu aux enfers, il va libérer les patriarches des limbes. Et l'évangile de Nicodème nous raconte de façon très précise comment il frappe à la porte et que la porte s'effondre aux grandes dames des diables qui disent « qu'est-ce que c'est que ça ? On était tranquille, on croyait s'être débarrassé du Christ et le voici qui vient tout nous casser. » C'est un grand moment très pathétique. Et là, vous voyez donc la gorge de l'enfer, le limbe des pères, et puis il faut montrer l'enfer où sont vraiment les méchants, parce que l'enfer, ça doit nous faire peur. Et vous avez ici deux étapes. D'une part, des roues crénelées dans lesquelles les cadavres des damnés sont en train d'être maltraités et de tourner dans les flammes de l'enfer. Ça, c'est très joli. Puis après ça, vous avez des gargouilles crachant du feu et puis un personnage au-dessus, une sorte de girouette. C'est spectaculaire. C'est plein de poudre à canon, c'est plein d'étincelles, c'est plein de fumée et c'est très spectaculaire. Et quand, pour annoncer un mystère, on commence à faire une grande parade au travers de la ville, comme ça s'est fait à Bourges dans les années 1510, je crois, vous avez toujours les diables qui passent devant avec des habits superbes, mais aussi avec des effets spéciaux superbes. On a à la bibliothèque universitaire un Quaderno dei Secreti qui a été fait en dialecte milanais début 16e, une horreur, mais qui nous explique comment on fait des masques dans lesquels on mélange de la poudre, certains produits, etc., de façon à ce que dans un premier temps, ça jette de la fumée et ensuite ça fasse des étincelles. Mais alors, les masques, vous le voyez, sont vraiment des masques très épais, des masques monstrueux que des gens mettent sur eux avec mission de respirer ailleurs et la possibilité donc de jeter des flammes par les naseaux, ce qui doit être très spectaculaire. Donc, on joue beaucoup à ça et c'est ce qui va plaire. Et entre-temps, vous allez avoir un certain nombre de décors. Nazareth, le temple, Jérusalem. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai eu il y a quelques années, bon, au siècle dernier déjà, l'occasion, quand je m'occupais du théâtre dans mon lycée, de travailler sur un endroit qui n'était absolument pas prévu pour. La salle de spectacle municipale était réservée pour les élections. On devait être en 88 ou un truc comme ça. Et là, on s'était retrouvé dans la halle aux toiles, la halle au blé, pardon, d'Alençon, qui est superbe. C'est une sorte de grand tambour. Grand tambour avec une résonance merveilleuse. On lançait un cri, ça résonnait 30 secondes, ce qui n'est pas facile quand on joue au théâtre. Mais les services municipaux nous avaient dit, bah oui, on peut vous mettre une scène là. Du coup, plutôt que d'essayer de mettre une scène en profondeur avec des changements de décor qu'on ne pouvait pas faire, on a décidé d'organiser notre scène sur 25-30 mètres. On faisait à peu près 40%, je dirais, du cercle de cette halle aux toiles. Et on avait la possibilité de faire des établis, de faire des mentions, exactement comme ça. Alors, ça, si je vous raconte ça, ce n'est pas pour vous raconter mes souvenirs d'enfance, c'est simplement parce que ça permet de voir qu'un lieu théâtral peut être mentionné simplement par un objet qui va le signifier. On avait une taverne, il suffisait d'avoir une enseigne, une table et un banc pour que ça marche. De toute façon, un banc, même pas besoin de deux, parce que les personnages étaient face au public. On avait la maison de machin, le palais du duc qui était marqué avec un trône, etc. Et on avait ainsi sur scène 4 ou 5 endroits, éventuellement délimités par une plante verte. Et ce qui avait de très intéressant, c'est que quand tout le monde se réunissait à la taverne, vous aviez sur ce petit coin-là, qui faisait quoi? Qui faisait 2, 3 mètres, pas plus, de largeur, la possibilité de mettre une dizaine de personnes. Et les personnes se déplaçant et se centrant leur regard sur la taverne où se passait quelque chose, la taverne devenait un lieu élastique qui prenait beaucoup plus de dimensions que ces 3 mètres d'empattement normaux. Et quand on était à la cour du roi, il y avait un certain nombre de personnages qui, symétriquement, étaient à moitié dans la taverne, mais comme ils étaient tournés vers la cour princière, on savait très bien qu'ils en participaient. Donc, si vous voulez, la morale de l'histoire, c'est qu'il est possible de multiplier sur un espace relativement restreint, bon, plus il est grand, mieux c'est, et sur un espace relativement restreint, un certain nombre de lieux scéniques qui, paradoxalement, ne vont pas se parasiter, mais vont avoir chacun une élasticité suffisante pour permettre à l'aire de jeu d'un moment précis, à un lieu précis, de se tenir pleinement. Et ça, je crois que c'est vraiment la morale de l'histoire. Ce qui fait que Nazareth vous paraît tout petit, et le temple de Jérusalem tout petit aussi. Mais ça suffit, parce que s'il se passe quelque chose de vraiment important sur le temple de Jérusalem, on pourra avoir des personnages quasiment jusqu'au-delà de Nazareth et en bas du paradis. Ça suffit. Alors, les diables. Je reviens à mes diables, ils sont charmants. Vous pourrez remarquer que les diables, ils sont donc avec des têtes animales. Là, on voit bien que ce sont des figurants, ils ne vont pas avoir à parler. Et ils ont des crochets, et ceux-là, de façon intéressante, sont sexués. La grande question, c'est le sexe des diables, mais bon, ça serait une autre question. Une autre représentation, ici, du même mystère, mais sur un autre manuscrit, va nous représenter d'autres lieux scéniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces autres lieux scéniques sont représentés en même temps en superposition, si vous les regardez, puisque vous avez à la fois la nativité de la Vierge, qui est présentée ici, donc c'est Sainte Anne dans son lit, la Sainte Vierge qui est là. Vous avez la présentation de Marie au temple, qui toute seule, portée par les anges, grimpe les degrés qui la mènent au temple de Jérusalem. Degrés très hauts et quasiment infranchissables pour une enfant de 7 ans. Et cependant, c'est portée par les anges qu'elle va se rapprocher de notre Seigneur. Et puis à droite, vous avez l'Annonciation qui est mise en place. Donc j'arrive là-dessus. Autre épisode, cette fois-ci, que vous allez reconnaître. Vous reconnaissez, j'espère, on a sur le même endroit la nativité et l'adoration des bergers, mais derrière l'annonce aux bergers, l'arrivée des rois mages avec l'étoile et la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ, ou la présentation au temple, mais là, clairement, c'est la circoncision. Tous ces épisodes-là montrent, et bon, même si on est dans une représentation très conventionnelle, montrent qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour arriver à mettre ensemble les rois mages, les bergers, le temple et la circoncision, et l'adoration à la crèche. Donc vous voyez, là, si vous regardez, c'est sur 5 mètres de large qu'on peut arriver à faire tout ça. Et ça suffit. Et en même temps, vous voyez comment on est en train de fabriquer progressivement un décor qui peut être minimaliste, mais qui sera toujours dans une esthétique un peu antiquisante. C'est-à-dire que ici, la crèche est un morceau de temple recouvert de feuillage ou de branchage, etc. Alors, là, je vous ai donné des très belles images qu'on a sur Valenciennes. Ici, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine, ou je terminerai encore aujourd'hui. On est sur l'incarnation, Notre Seigneur, Rouen, 1474. Alors bon, vous n'êtes peut-être pas habitué à lire des caractères gothiques. Rassurez-vous, hein, c'est comme le reste, ça s'apprend, on fait ça très bien. Donc, ensuite l'incarnation, oui, en fait, en même temps, c'est transcrit en dessous, donc on ne va pas s'inquiéter. Nativité de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, laquelle fut montrée par personnage, ainsi que si après est écrite, l'an 1474, les fêtes de Noël en la ville et cité de Rouen, dedans le Neuf Marché. Bizarrement, c'est ce qu'on appelle maintenant la place du Vieux Marché. C'est là qu'a été brûlée Jeanne d'Arc. Et Estouet les établit assises en la partie septentrionale, dit celui, depuis l'autel de la hache couronnée jusqu'à l'autel où pend l'enseigne de l'ange. Second, c'est-à-dire secundus, selon l'ordre déclaré à la fin de ce codicile. Mais les établis des six prophètes étaient hors des autres, en diverses places et parties, dit celui, neuf marchés. Alors, établis, c'est un truc assez important, parce que vous voyez, c'est un échafaudage. C'est une estrade. Et vous allez avoir un certain nombre de mots qui vont se retrouver. On parlera d'établi parfois, on parlera d'estage. Ce qui pose des tas de problèmes, parce que les gens croient à ce moment-là qu'il s'agit non seulement d'une estrade, mais éventuellement d'une estrade avec une autre estrade au-dessus, ce qu'on entend aujourd'hui par le mot de estage. Mais si vous regardez cette simple estrade, en estage, ça correspond à l'anglais « stage ». Quand vous pensez « stage », je pense à « The Stagecoach », le petit film américain si sympa, etc. « Stage », c'est la scène, c'est le plateau, tout simplement. Donc, il faut bien penser que quand vous avez des estages, c'est une estrade et pas simplement des empilages. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de dire que On a les prophètes en dehors. Alors essayez d'imaginer votre place du Vieux Marché ou de Neuf Marchés à Rouen. Un échafaudage, un estage, une scène relativement longue. Mais ça va commencer par l'Ordo Prophetarum, par la représentation rituelle de tous les prophètes qui, dès l'Ancien Testament, annoncent la nativité de notre Seigneur. Si vous vous souvenez, quand on avait parlé des jeux de Noël, je vous avais signalé l'importance de ce sermon attribué à saint Augustin, qui en fin de compte n'est pas de lui, dans lequel on inventorie toutes les annonces de la nativité pour montrer qu'elle était réellement inscrite dans l'ordre du monde. Nos personnages, d'habitude, dans mes processions de jeux liturgiques du XIIe-XIIIe siècle, ils avançaient devant un public immobile. Là, on ne va pas pouvoir les mettre en procession, et en même temps, ils prennent de la place. Alors, essayez d'imaginer, on a pris le long de la place la plus grande surface possible pour faire la scène où il va se passer quelque chose, puis vous avez des maisons, des angles de maisons, comme ça, qui arrivent vraiment à un angle droit. Et sur cet angle droit, on va installer une estrade, allez, d'un mètre carré, où vous aurez un bonhomme et puis un autre qui, à l'occasion, va dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous voyez déjà qu'on va avoir la prise en compte de l'ensemble de l'espace de la place, avec un lieu théâtral d'un côté et d'autres micro-lieux théâtraux qui vont se retrouver de l'autre. Donc, le théâtre s'inscrit complètement dans la ville. Et deuxième étape, c'est encore plus intéressant, ça veut dire que le public, il est mobile. Le public n'est pas assis comme un troupeau de troisième âge devant Derrick, il est en train de regarder ce qui se passe quelque part. Et vous avez une mobilité du public qui s'est retrouvée dans les théâtres d'avant-garde. Je me souviens d'avoir vu des choses dans les années 70, un Roland Furieux dans les halles de Baltard avant qu'elles aient été détruites, ou tout simplement, si vous avez regardé ce qui se passe au Théâtre du Soleil, vous pourrez retrouver, ça existe en DVD, le fabuleux spectacle 1789 de Ariane Mnouchkine, où à un moment, le public est debout et à divers endroits de la salle, des gens arrivent en disant « Je vais vous raconter ce qui s'est passé ». Et 5-6 acteurs répartis comme ça attirent un petit bout de public et leur racontent comment cet hiver-là il avait fait froid, comment on avait faim, comment c'était la famine, comment ceci, etc. Et comment progressivement on prend la Bastille. Et vous avez un cœur absolument hallucinant de tous les acteurs répartis partout dans la salle qui font monter l'insurrection de 7 ou 8 endroits différents jusqu'au moment où on prend la Bastille. Ça veut dire qu'on peut imaginer un lieu théâtral avec des lieux multiples et éventuellement, ça c'est le travail d'Ariane Mnouchkine, des lieux simultanés. Mais des lieux simultanés pour raconter le 14 juillet et la prise de la Bastille, ça marche. Ici, on est dans des lieux qui ne sont pas simultanés mais qui sont successifs. Mais après avoir vu le premier acteur, on va en voir un autre, etc. Les établis, premièrement vers l'Orient, paradis, comme il est dit, Nazareth, la maison Notre-Dame, son oratoire, la maison Élisabeth. À Jérusalem, vous avez une série de lieux. À Bethléem, vous avez une série de lieux. Vous voyez que côté décor, on est loin du théâtre classique où tout ça se passe dans la toile peinte de l'antichambre du prince machin, etc. On est dans le cinémascope. On est dans quelque chose qui va être spectaculaire, mais on arrive ainsi, sachant que les lieux vont être délimités, vont être nommés, et assez souvent vont avoir une petite étiquette au-dessus pour qu'on sache où on est aussi dans du lisible complet. Et on continue, on a aussi des choses, et là ça va être très intéressant, et je pense sur une autre établie, on a ce qui se passe à Rome. Alors, et vous voyez, on a Rome, l'enfer fait en manière d'une grande gueule se clouant et ouvrant quand besoin en est. Le limbe des pères fait en manière de chartre, c'est-à-dire en manière de prison. Et ensuite, on voit les places des prophètes en divers lieux, hors des autres. Donc, vous voyez, une grande place destinée à la Terre Sainte, une place plus petite destinée à Rome et l'enfer, et les prophètes de ci, de là, quand on avait de la place. Et vous voyez arriver un personnage tout à fait intéressant, le prologue. Alors, dites-vous bien, bon, ça se passe un peu comme ça dans les matchs de foot, hein, mais quand vous mettez quelques centaines, voire quelques milliers de personnes qui attendent qu'un spectacle commence, c'est du vacarme, c'est du bruit. de brouhaha, avec des cris, avec de l'excitation, parce qu'on a dépensé des sous, on est au spectacle, on se demande si ça va être bien, il y a toujours cette espèce de frémissement. Comment arriver à calmer le jeu? Maintenant, au théâtre, c'est simple, on fait un fondu au noir. Éventuellement, on va mettre une musique. À l'époque, il y a deux éléments qui vont jouer. Le premier, c'est la musique. Je vous l'avais dit déjà, allez regarder, emprunter en DVD ou en CD, ça se trouve, l'Orphée de Monteverdi, qui est notre premier opéra. Vous verrez, ça commence par une chamade de trompette. Si vous étiez en train de causer avec votre voisin, vous ne pouvez pas faire autre chose que vous taire. On sait que ça commence. Et ensuite, le temps de capter l'attention, vous avez toujours un personnage qui s'avance et qui va présenter le public. C'est le prologue, le bonimenteur, celui qu'on a dans la tradition espagnole qui fait la loa. La loa, c'est une façon de dire « Bonjour public aimé, je suis tellement heureux d'être parmi vous, etc. Vous êtes les meilleurs. Et voilà, je vais vous raconter une histoire inouïe, une histoire exceptionnelle. » C'est déjà ce que fait le Liprecieres au début du jeu de Saint-Nicolas de Bodel. Et là, vous le voyez, « Pour relever humaine créature des ors enfers et de la charte obscure où l'avait su le mauvais ange attraire. Le Fils de Dieu, par sa charité pure et amitié, notre propre nature a voulu prendre. » Et vrai homme soit faire. » Voilà, ça commence bien quand même. Et après ça, pour relever humaine créature, je dirais, ça peut se gueuler tout d'un coup. On entend l'acteur et en même temps, on est au courant que l'incarnation, ça va être l'histoire de la rédemption, je veux dire. C'est pas un scoop absolu. Elle est d'une vierge, il a fait son sacraire, puis est née en très pauvre repère, ainsi comme nous le démontrerons, s'il plaît à Dieu. Et pour ce mieux parfaire, nous vous prions tous qu'il vous plaise taire, jusqu'à ce qu'achevé nous aurons. Ça, c'est le boulot. Hein. Taisez-vous. Pensez à certains professeurs que vous aviez en collège. Je ne commence pas tant que vous ne vous taisez pas. Parfois, on commence au bout de 20 minutes. Mais il faut arriver à accrocher les gens. Taisez-vous, jusqu'à ce qu'achevé nous aurons. Afin d'ennui fuir, nous nous tairons présent des lieux. Vous pouvez les connaître par l'écritelle que dessus voyez être. Donc on sait qu'ils étaient mentionnés. Nous requérons universellement à tout seigneur d'église ou autrement et au commun, bref, à toute personne, si commettons faute, qu'on nous pardonne, et chacun Dieu des prières d'humble cœur, que par sa grâce il nous soit adjuteur. Donc, je vous raconte quelque chose. Si jamais il y a faute, et la faute, ça va être la faute d'un acteur qui bredouille dans son texte, et ça peut être aussi la faute d'interprétation théologique. Pardonnez-nous et nous allons commencer. Et l'idée, c'est vraiment de dire, notre représentation, c'est une représentation profane qui essaye de ne pas aller contre notre Sainte Mère, l'Église, bien sûr. Mais en même temps, c'est une représentation qui prend des libertés et dont il ne faut pas prendre tout pour argent comptant théologiquement. Et après ça, donc Balaam, le prophète gentil, commencera le premier. Et est-il qu'il y eut dédié au livre Job? Et commencera le premier, le voici. Et Balaam va raconter son histoire, Horietur, Stella, Jacob, etc. Si vous regardez, il commence par une citation latine. Vous retrouvez exactement des représentations de ce type dans les enluminures, les triptyques, les retables, etc. Où vous avez les prophètes qui sont debout et qui ont un grand ruban sur lequel est écrit la citation latine qui. On peut supposer que Balaam a son ruban, son phylactère, avec Horietur Stella et Jacob. Mais après ça, il va l'expliquer. Oui ? Là, on est dans le mystère de l'incarnation. Notre Seigneur, Rouen 1474, je ne l'ai toujours pas quitté. Parce qu'il est très beau. Puis je l'aime bien. Et alors, bon, vous allez avoir, dans ce mystère-là, la suite des six prophètes. On termine par le prophète Daniel, qui va nous dire donc que le Christ arrive, etc. Et ensuite, vous avez le personnage de Sibylle. Alors, vous vous souvenez, on avait vu ça déjà dans les Ordo Prophetarum, qu'on a un certain nombre de prophètes de l'Ancien Testament, puis la figure de la Sibylle, qui est toujours intéressante, parce qu'elle permet de faire l'articulation de Jérusalem à Rome. Dans notre mystère de l'incarnation, notre Seigneur, c'est quelque chose d'encore plus étonnant. Il n'y a pas beaucoup de mystères de l'incarnation, déjà. Il semble que le seul qu'on ait conservé soit un mystère rouennais. 1474, ce qui va le caractériser, c'est qu'il a lieu pendant l'épiscopat de Guillaume d'Estouteville. En fait, c'est Estouteville, qui était une figure très importante de la fin du XVe siècle. Guillaume d'Estouteville était aussi abbé du Mont-Saint-Michel, cardinal-archevêque de Rouen. Et on est dans les moments où on commence à s'occuper des guerres d'Italie. Les contacts avec l'Italie sont extrêmement importants. Guillaume d'Estouteville était franciscain. Les franciscains à Rome ont vraiment les coups des franches. Pour des raisons historiques que je vous expliquerai un jour si on a le temps, les dominicains ont été disqualifiés, ce qui permet aux franciscains d'être vraiment les plus importants. Et ce qui nous permet à nous d'avoir sur la place de Rouen un authentique théâtre franciscain, alors qu'assez souvent il est dominicain. Qu'est-ce que ça va donner dans notre cas précis ? Ça va donner qu'on va s'attacher dans ce mystère de l'incarnation de notre Seigneur, bien sûr à la naissance du petit Jésus, vous avez compris que c'était l'essentiel, mais aussi à un autre épisode qui est l'histoire de la Sibylle et d'Octavien. Alors, l'intérêt ici, si vous voulez, c'est que cette Sibylle qui conclut l'Ordo Prophetarum, elle va aussi embrayer sur la partie romaine de l'épisode et nous annoncer de nouvelles choses. En mon courage et en mon cœur, sans bruire autre chose que n'est accoutumé, mon esprit est très fort enflammé à prononcer un grand secret nouvel, au moins à moi, et ainsi qu'un tonnel où est mise la nouvelle boisson, non par ce sang, fléveu, crevé, son, ne lui baille, soupiraille ou évente, tout ainsi est, ma pensée entente, à dire vrai, je ne me puis plus taire. Voici que la Sibylle déborde comme un vin nouveau qui fermente. Et ça, vous vous souvenez que c'est des choses qui arrivent au moment de la Saint-Nicolas, fin novembre, début décembre, au moment du vin nouveau. C'est le moment où on met le vin nouveau dans de nouvelles outres, etc. Vous savez, on avait vu autour de Saint-Nicolas toute cette thématique du vin qui est la nouveauté. Voici que la Sibylle déborde d'une inspiration et que cette inspiration, ça va être que il n'y a qu'un seul Dieu. Attendez, à Rome, en 1 ou 0, avant ou après Jésus-Christ, c'est pas si évident que ça, de n'avoir qu'un seul Dieu. Et notre Sibylle va partir sur un discours complètement fou, en disant quelque chose comme « Il ne faut pas multiplier les entités. On n'a besoin que d'un seul Dieu, il n'y a pas besoin de 150, donc un seul Dieu suffit, donc il n'y a qu'un seul Dieu. » Oui, mais il ne faut pas multiplier les entités. C'est pas n'importe qui dit ça. C'est un des théologiens franciscains les plus élaborés de la fin du XIVe, celui qui de temps en temps a même un petit peu décoiffé les dominicains, c'est Guillaume d'Ockham. Vous avez peut-être entendu parler. Guillaume d'Ockham, O-C-K-H. Ou parfois on l'écrit aussi avec deux C, hein. Guillaume d'Ockham, c'est un grand théologien franciscain. Dire « il ne faut pas multiplier les entités » et le faire dire par la Sibylle, c'est tout de suite se mettre dans une tradition complètement franciscaine. Alors, qu'arrive-t-il à cette Sibylle ? Elle est inscrite dans l'histoire et il y a un épisode qui est raconté dès les évangiles apocryphes. Vous savez que l'empereur Octave, devenu Auguste, a rétabli la paix au milieu d'un univers romain extrêmement massacré par les guerres civiles. Vous vous souvenez que Auguste émerge après les histoires tristes de César, du triumvirat, des bagarres contre justement Auguste, Marc-Antoine, etc. Bon. Auguste a rétabli la paix et un certain nombre de patriciens romains proposent de le diviniser. Ce qui est quand même un honneur suprême. Et Auguste a bien envie, mais se pose des questions et finira par rencontrer la Sibylle, laquelle lui dira « Non, justement, autour du fait, il ne faut pas multiplier les entités, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu es quelqu'un de très bien, mais reste humain, ça te va mieux. » et mieux que ça, regarde par la fenêtre. Regarde ce qui arrive. Et figurez-vous qu'on est le 24 décembre 0 au soir. Voici qu'arrive dans le ciel une représentation tout à fait extraordinaire d'une femme, une vierge pure, qui porte un enfant dans ses bras. C'est ce que vous avez ici représenté dans Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Vous avez la Sibylle qui lui montre, vous voyez, cette personnage rouge, cette femme rouge avec la main levée, qui montre à Octavien, lequel se jette à genoux, le vrai Dieu unique. Alors là où ces choses sont intéressantes, si vous voulez, c'est que cette histoire de la Sibylle et d'Octavien, elle apparaît à un endroit très précis, qui est Notre-Dame in Araceli. L'endroit est connu depuis l'Antiquité, depuis qu'on fabrique la légende, et on finit par construire une église, un monastère, Notre-Dame in Araceli, donc à l'autel céleste, qui est absolument superbe. Et Notre-Dame in Araceli, où on vénère particulièrement cette apparition de la Vierge, c'est justement la maison mère de la généralité des franciscains en Italie. C'est-à-dire que s'il y a un lieu privilégié pour les franciscains, c'est bien cet endroit-là que le mystère de l'incarnation va mettre en place. Alors, deux, trois images et après ça, je vais vous libérer. Le même Guillaume d'Étouteville, pour marquer son rôle de cardinal archevêque de Rouen, décide de financer partiellement la construction d'une tour latérale pour permettre à la cathédrale de Rouen de tenir droite. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que pendant qu'il construit la tour, le terrain fléchit un petit peu, le portail commence à fléchir, enfin c'est compliqué. Néanmoins, cette tour dite tour de beurre, parce qu'elle a été financée entre autres grassement par les taxes que payaient les Normands pour avoir le droit de prendre du beurre en carême, vous avez la même chose à Lens. Cette tour de beurre est un monument de l'art gothique flamboyant de la fin du XVe, très bien, mais elle a une particularité, c'est que sur le versant est, c'est-à-dire que là, je tourne le dos à la façade, vous voyez ici clairement la nef qui démarre, vous voyez ? Sur le versant est, vous avez donc cette tour, une gigantesque, et au centre, vous avez cette petite fenêtre là, où se trouvait le son de la cloche. La cloche Georges d'Amboise était là. Et vous avez de part et d'autre de cette ouverture un certain nombre de sculptures que vous allez reconnaître. Vous avez, pardon, c'est pas ça que je veux dire, vous avez la Sibylle. Vous avez ici, un petit peu à genoux, on le voit à peine, bon sang, mais c'est pas vrai. Vous avez Octavien et vous avez au sommet la Vierge qui apparaît. Donc ce que je veux dire, c'est que montrer dans le mystère de l'incarnation Notre-Dame, l'apparition de la Sibylle, l'apparition de la Vierge à Sibylle et Auguste, c'est vraiment une signature franciscaine, une signature intéressante, qui est à la fois très belle sur le plan théâtral, sur le plan symbolique, etc. Je reprendrai la suite la semaine prochaine, mais qui s'inscrit tout à fait dans l'utilisation d'un projet politique. Et c'est ce sur quoi je conclurai le cours aujourd'hui, en ayant donc suivi un petit peu cette piste de la Sibylle et d'Octavien, c'est vous rappeler que le mystère, comme texte théâtral, comme texte religieux, comme texte spectaculaire, c'est tout ça. Mais c'est aussi quelque chose qui s'ancre toujours par de petits indices dans la vie quotidienne et dans des éléments extrêmement précis. Donc ici, vous voyez comment ce qui est une grande fresque pour raconter l'histoire de Noël finit aussi par parler aux gens de leur présent au moment où ils s'y trouvent. Bon, la suite, la semaine prochaine. Voilà.